L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 10 janvier 2013, quelque part dans le ciel de l'ouest du Congo. Depuis le petit Cessna blanc qui le ramène chez lui, Denis contemple avec émotion les immenses montagnes qui se dressent en dessous du ciel, encore plongées dans la brume épaisse de l'aube africaine. Ce paysage de verdure et de calme forme un contraste saisissant avec la violence qui métastase son pays. Le Congo n'est vert que vu d'en haut. En bas, il est rouge, comme la terre, comme le sang qui la nourrit. Denis est un chirurgien obstétricien reconnu. Son histoire l'a poussé, malgré lui, à devenir un spécialiste des blessures de viol et un fervent militant pour la cause des femmes. Après des années à soigner ces dernières dans l'indifférence générale, il s'est engagé à plaider leur cause auprès de la communauté internationale. Cela lui vaudra de nombreuses récompenses, dont l'ultime prix Nobel de la paix, mais aussi plusieurs tentatives d'assassinat. La dernière date d'il y a 3 mois à peine, et il a convaincu de fuir le Congo. Mais Denis n'a pas su se résoudre à abandonner celles qui ont tant besoin de lui. Alors, il a décidé de revenir et de se battre pour elles, pour les femmes de son pays. Le pilote invite Denis à accrocher sa ceinture de sécurité. L'avion amorce sa descente vers Bukavu, une ville située au sud-ouest du lac Kivu. Le docteur Denis Mukwege, celui que l'on surnomme l'homme qui répare les femmes, est de retour au Congo. Nous sommes le 10 janvier 2013. Il est 8h05 et c'est l'heure H de mon histoire. À Bukavu, un épais brouillard flotte encore sur la piste d'atterrissage du petit aéroport. Timide, les lueurs du soleil matinal percent à peine l'obscurité laiteuse de cette aurore africaine, révélant une saisissante palette de couleurs vertes. Il règne un calme absolu, tout juste troublé par le chant des oiseaux. Soudain, un lent battement de tambour se fait entendre au loin. Chaque coup résonne à travers les montagnes, créant un écho envoûtant au milieu de cette nature mystérieuse. Le battement est de plus en plus fort. Il approche. Il est rejoint par un autre battement, plus timide. Puis encore un autre et bientôt leur pulsation enveloppe la montagne tout entière. Même les oiseaux se sont tus pour écouter le chant du tam-tam. Et alors que le soleil ose enfin se montrer tout entier entre les montagnes, une joyeuse cacophonie de sons humains monte dans l'air et vient briser cet instant sacré. En quelques secondes, l'atmosphère se charge de chants, de rires et de couleurs au fur et à mesure qu'apparaît à l'horizon un groupe de femmes. Traversant la brume, elles marchent vers l'aéroport. Mais alors que le petit groupe approche, leur nombre semble croître et ce qui paraissait n'être qu'un petit rassemblement se transforme bientôt en un véritable cortège. Ce qu'il reste de brume se dissipe peu à peu derrière une centaine de femmes. Certaines portent des pancartes, d'autres des draps ou des morceaux de tôle sur lesquels on peut lire « Bon retour, papa » ou encore « Nous tous, derrière toi, notre sauveur ». À présent, le bruit est assourdissant. Le vrombissement et les klaxonnements d'une cinquantaine de véhicules est venu s'ajouter au tam-tam et au chant des femmes. Progressant avec prudence au milieu du cortège, des jeeps de la police congolaise et des Nations Unies tentent tant bien que mal de se frayer un chemin au milieu de cette marée humaine. Le minuscule aéroport de Bukavu s'est transformé en une gigantesque fête. Les visages des femmes sont illuminés par des sourires radieux, tandis que les couleurs des pagnes et des turbans enflamment l'air. Soudain, le cri de l'une d'entre elles résonne plus fort que les autres. « Il arrive ! Mukwege arrive !» Tous les regards sont à présent rivés vers le ciel. Là-haut, au-dessus de la montagne, un petit avion blanc vient de déchirer les derniers nuages. Denis Mukwege aperçoit au loin la foule qui l'attend et cela le bouleverse. Les émotions s'enchaînent dans sa tête. Au bonheur de retrouver son hôpital et ses patients se mêlent l'incertitude et la peur. Pourra-t-il aider les femmes de son pays? Combien de temps va-t-il encore rester en vie? Devenu un acteur mondial dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes, sa vie est menacée. Il se remet à peine de la dernière tentative d'assassinat qui a coûté la vie à un de ses collaborateurs. Cette fois, des hommes armés de Kalachnikov ont débarqué chez lui en plein centre-ville. Ils l'ont ligoté et ont tenu sa famille en joue, avant de tirer sur Joseph, son agent de sécurité et ami. La famille Mukwege a fui le Congo dans la plus grande panique. À l'abri en Suède, Denis a connu un bref répit, éloignant pour un instant les horreurs qui le hantaient. Mais les images de toutes celles qu'il a laissées derrière lui ne l'ont pas quitté. Denis s'était donné une mission. Et cet exil forcé sonnait comme un abandon, jusqu'à ce que l'incroyable ne se produise, sous la forme d'une pétition et d'un billet d'avion. Il a alors appris que des centaines de femmes vivant pourtant dans une extrême pauvreté avaient travaillé d'arrache-pied pendant des semaines pour lui payer son billet retour au Congo. Elles ont même envoyé au président Kabila une pétition pour qu'il fasse revenir le docteur et assure sa protection. Voilà donc Denis Mukwege de retour au pays, seul contre tous. Car l'ennemi est pluriel. D'abord, il va devoir faire face à l'inertie de ses semblables. La mentalité de son peuple est imprégnée par des siècles de normes sociales où la femme a été reléguée au second plan et le viol banalisé. Il va aussi devoir affronter l'inaction de la communauté internationale qui, malgré une reconnaissance de son combat, ne parvient pas à prendre de mesures concrètes. Et aux difficultés s'ajoute le danger. Il est une gêne pour son propre gouvernement qu'il accuse de diffamation et préfère ignorer ses appels à l'aide et les cris de détresse de son peuple. Pire, en devenant la voix des femmes du Congo, il est devenu une cible à abattre pour tous les combattants congolais, rwandais ou ougandais, qui se servent du viol comme arme de guerre. Alors que son avion se positionne face à la piste, Denis replie le discours enthousiaste qu'il a préparé pour son arrivée. Un discours d'avenir et de promesse. Le Congo connaîtra-t-il un jour la paix et la prospérité ? Se demande-t-il. Aussi loin qu'il s'en souvienne, son pays n'a jamais connu de trêve. Denis ferme les yeux et se souvient. Denis Mukwege a 5 ans quand le Congo devient indépendant en juin 1960. Mais comme pour beaucoup de Congolais, le souvenir qu'il garde de cette décennie n'est pas celui d'une nation en liesse et qui se reconstruit, non. Après un siècle de colonialisme, le Congo va connaître une nouvelle ère de bouleversement et de violence. Sous la dictature de Joseph Mobutu, Denis devient zaïrois et le trop jeune témoin des efforts qui sont déployés en hâte pour nettoyer toute trace de l'influence belge. Les commerces, maisons, voitures de l'oncle blanc sont saccagés et les règlements de comptes se multiplient. Les Européens fuient. Mais avec le départ des colons, disparaissent aussi l'éducation, la santé gratuite et toutes les structures administratives et hiérarchiques. Le pays se retrouve entre les mains d'une poignée d'hommes sans les compétences nécessaires pour faire tourner une telle machine. Convoité par le monde entier pour ses immenses richesses naturelles, sans repère et peu préparé, le Zaïre sombre dans le chaos. Les Aérois vont alors vivre un sombre paradoxe. En signant l'indépendance, ils aspiraient à la justice, au rétablissement de leurs droits et à la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais alors que le tyran belge a quitté la scène, de nouveaux bourreaux émergent et ceux-là vont commettre les pires atrocités. C'est donc dans la violence que Denis grandit, et c'est dans la violence que ce jeune fils de pasteur va aussi trouver sa voie. Son père sauve les âmes, alors lui sauvera des vies. Dès la fin de ses études, il se lance dans la médecine. Diplôme en poche, sa vocation se précise. C'est en tant que pédiatre qu'il part exercer à l'hôpital de l'Eméra, une ville au sud de Bukavu. Cependant, au fil de ses premiers mois de pratique, il est bouleversé par les conditions auxquelles les femmes sont confrontées pendant la grossesse et lors de leur accouchement. Il constate avec horreur que dans cette société où la femme n'est qu'une citoyenne de seconde importance, les futures mères travaillent jusqu'aux premières contractions. Le plus souvent, elles accouchent chez elles dans des conditions d'hygiène déplorables, sans soins. Le taux de mortalité des femmes en couche est l'un des plus élevés au monde. Moderne avant l'heure, dans un Zaïre profondément rural et arriéré, Denis Mukwege se range pour la cause des femmes et fait alors le choix de devenir obstétricien. À l'Eméra, il consacre désormais toute son énergie à soigner et à aider les femmes. Devenu directeur médical de l'hôpital, il voit se succéder des cas difficiles. Le plus souvent des femmes seules, sur le point d'accoucher, et qui ont marché des kilomètres dans d'atroces souffrances, jour et nuit, sans relâche. Le docteur opère, suture, écoute, console, rassure. Quand il n'est pas au bloc, il se bat pour trouver des financements, ouvrir des lits supplémentaires, former les sages-femmes qui l'assisteront. Il fonde un centre d'accueil pour les femmes enceintes, afin qu'elles y reçoivent des soins dans leur dernière semaine de grossesse. Mais l'immense défi sanitaire qui se dresse devant lui n'a pas encore atteint son apogée. Car le Zaïre s'apprête à vivre une des heures les plus sombres de son histoire et l'hôpital de Denis va être aux premières loges. Cela s'est passé le 6 octobre. C'était un samedi, songe Denis, alors que son petit avion continue sa descente. Je n'aurais jamais pu imaginer que ce n'était que le début. Ça a été le premier grand crime de la première guerre du Congo et ça s'est passé dans mon hôpital. Enfoncé dans son siège, les épaules affaissées, Denis se remémore ce jour sanglant de l'automne 1996, il y a 17 ans. En ce matin d'octobre 96, il est 9h quand Denis quitte l'hôpital de l'Eméra. Il doit évacuer un malade vers la ville. La région est sous tension, mais depuis plusieurs semaines, Denis répète à tous ses malades que chez lui, ils sont en sécurité. Pourtant, quand il revient quelques heures plus tard, il est accueilli par un silence funèbre. Avec appréhension, il pénètre dans son hôpital. Les murs sont maculés de sang, les fenêtres brisées, les couloirs jonchés de débris. Il flotte dans l'air une odeur métallique. Tous les malades et des membres du personnel ont été assassinés. Les Tutsis nous ont attaqués, parvient à articuler un survivant les yeux révulsés de terreur. Le tristement célèbre génocide rwandais vient de dépasser les frontières du Rwanda. 1,5 million de Hutus sont venus se réfugier au Zaïre. Et avec l'accord du général Mobutu, ils se sont installés dans la région, au nord du Kivu. Mais l'armée Tutsi, nouvellement au pouvoir, s'est lancée dans une croisade meurtrière contre ces derniers. À leur tour, ils ont envahi le Zaïre, sonnant le glas de sanglantes représailles contre les Hutus, mais aussi les soldats zaïrois de Mobutu. Les occupants de l'hôpital de Denis Mukwege ont été les premières victimes. Au total, les Tutsis ont massacré 37 personnes, en majorité des militaires des forces zaïroises qui étaient hospitalisés et qui ont été lâchement abattus dans leur lit à bout portant. Dans l'attaque, deux membres du personnel médical et des civils ont aussi été tués. Puis, les Tutsis ont saccagé l'hôpital. La première guerre du Congo est déclarée. Elle va durer un an et ne prendra fin qu'avec la destitution du président Mobutu. De façon très commode, les Tutsis placeront un de leurs pions à la tête du pouvoir zaïrois, le communiste Laurent-Désiré Kabila. Le pays retrouvera son nom d'origine. « Et moi, je suis redevenu congolaise », dit Denis, à la fois amusé et cynique. Enfin, citoyen de la République démocratique du Congo. Son sourire retombe aussitôt. C'est à ce moment-là que je suis aussi devenu spécialiste des blessures de viol. Léger virage de l'avion, puis il aperçoit à nouveau les centaines de femmes qui l'attendent en bas. C'est aussi à ce moment-là qu'on m'a surnommé « l'homme qui répare les femmes », conclut-il dans un soupir. Quand il descend de l'avion, Denis Mukwege est accueilli par des youyou et des cris de joie. Des femmes s'agenouillent, pleurent, rient. Grand-mère, mère, fille, avocate, infirmière, villageoise, patientes, survivantes, elles sont toutes là, pleines de joie et d'espoir. Le docteur Mukwege est revenu au Congo pour elles, malgré le danger, les tentatives d'assassinat. Elles se pressent pour serrer chaleureusement les mains du bon docteur et l'entourer de leurs bras. Au milieu des casques bleus vêtus de leurs gilets pare-balles que l'on a dépêchés pour protéger Denis, ces femmes, armées de leur seul courage, vont lui faire une promesse. Ce sont elles qui le protégeront. Nous sommes en 1998. Denis a 43 ans quand la Seconde Guerre du Congo éclate. À peine un an après que la première ait pris fin. Presque une routine dans ce pays tourmenté depuis voilà un siècle. À l'origine de cette deuxième guerre, la décision du nouveau président congolais, Laurent-Désiré Kabila, de chasser les Tutsis du pays. Ouais. Oui, ceux-là même qui l'ont assis sur le trône présidentiel un an plus tôt. Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres. Sous prétexte que le nouveau président de la RDC a changé de camp, les Tutsis reprennent les armes et attaquent le Congo pour la deuxième fois. En réalité, l'enjeu est bien plus que politique. L'histoire se répète. Après Léopold II et la Belgique auparavant, le Rwanda a des vues sur l'exceptionnelle richesse du Congo. Il n'est donc pas question de se laisser chasser du pays. Les pays voisins vont aussi s'en mêler pour des raisons géopolitiques et parce qu'il n'y a pas de raison que le Rwanda se taille tout seul la part du lion. Aux premières loges de cette nouvelle guerre, Denis constate impuissant que les considérations humanitaires disparaissent au profit de l'intérêt des puissants. Il voit les habitants de sa région se faire massacrer dans une froide indifférence. Ses patients ne sont plus seulement des femmes. Il accueille à présent les victimes des coups de mortier, mais aussi les habitants atteints de famine et de maladies. Faute de structure sanitaire, la moindre épidémie de grippe ou une simple appendicite sont devenues des fléaux mortels. L'hôpital de l'Emera, qu'il a fallu remettre sur pied après la terrible attaque Tutsi, peine à accueillir tous les patients. Denis s'est donc lancé dans la construction d'un second hôpital, à Bukavu cette fois. Il ne le sait pas encore, mais cet hôpital, que l'on baptisera « Hôpital Panzi », sera bientôt reconnu pour une terrible spécialité. C'est d'ailleurs sa toute première patiente qui va annoncer la couleur. L'hôpital ne tient pas encore debout quand Denis est appelé en urgence pour la première fois. On vient de lui amener une femme dans un état grave. Il faut improviser un bloc opératoire. Denis a 44 ans et le cas de cette jeune femme va marquer un tournant décisif dans sa carrière. Car ce n'est pas une femme sur le point d'accoucher qui l'attend. C'est une femme qui a été atrocement violée par plusieurs soldats. Comble de l'horreur, après le viol, ces derniers ont tiré à bout portant dans son bas-ventre. La jeune femme survivra. Mais dans les mois qui suivront, Denis sera de plus en plus appelé à intervenir sur des cas similaires, jusqu'à être submergé. Il y avait parfois des viols commis sur toutes les femmes et toutes les filles d'un village dans la même soirée, ce qui signifie 200 nouvelles victimes en l'espace de quelques heures, racontera-t-il un jour. Au plus fort de la Seconde Guerre du Congo, le chirurgien obstétricien qui voulait améliorer les conditions de la maternité répare à présent plus de 3000 femmes par an suite à des violences et crimes sexuels. Et les cas de viol sont de plus en plus inquiétants. Certaines femmes présentent des blessures commises par des bouts de bois, des morceaux de plastique brûlants ou des objets tranchants. Mais il y a pire encore. Un jour, j'ai opéré une fille née à l'hôpital, issue d'un viol, qui elle-même avait été violée à l'âge de 8 ans. Là, j'ai compris que je soignais les enfants issus du viol et je ne voulais pas me retrouver à soigner les petits-enfants issus du viol. Il fallait une action et dire au monde ce qui se passait au Congo. Et ça, je ne pouvais pas le faire au bloc. Je devais sortir de l'hôpital, rencontrer des gens et leur dire « Ayez du courage pour arrêter ce mal ». C'est à ce moment précis, confronté à un cycle de violence sans fin, que Denis Mukwege franchit un nouveau tournant. Le militant pour la cause des femmes vient de naître. Offrir un avenir plus sûr aux futures générations de filles et de femmes de son pays, voilà un challenge de taille. Si la Seconde Guerre du Congo et ses 6 millions de morts sont quasi passés sous silence médiatique, comment Denis peut-il espérer attirer l'attention sur le sort des quelques milliers de femmes qu'il défend ? D'autant qu'on ne peut pas dire qu'il bénéficie d'un quelconque intérêt de la part de son gouvernement. Qu'importe. L'homme est déterminé. Il trouvera de l'aide ailleurs pendant des années. Il va donc multiplier les interviews et les prises de parole à travers le monde. Eve Ensler, féministe très engagée et mondialement connue, va être une des premières à entendre son appel. Ensemble, la célèbre auteure des monologues du vagin et le docteur Mukwege vont se lancer dans une campagne internationale pour les femmes du Congo. Et ils vont réussir à obtenir le soutien de l'UNICEF et à récolter des fonds dans le monde entier. De leur combat naîtra la Cité de la Joie, une antenne de l'hôpital Panzi dédiée aux femmes victimes des viols. L'objectif de ce centre est de faire des victimes des tutrices qui aideront à leur tour les survivantes à se relever. Au-delà des thérapies de groupe qui les aident à se remettre psychologiquement, les femmes peuvent y suivre des cours de droit, de commerce. On leur apprend à écrire, à lire, à compter. On leur donne toutes les cartes pour qu'elles puissent se reconstruire psychologiquement et socialement dans le cadre d'une vie qui, pour la majorité d'entre elles, se fera sans famille. Tous les 6 mois, une nouvelle promotion de 90 nouvelles femmes intègre la Cité de la Joie. Ce sont ces femmes qui formeront ensuite les survivantes et ainsi de suite. Eve Ensler et l'UNICEF ne sont pas les seules à avoir entendu les appels à l'aide de Denis Mukwege. Nous sommes en 2006. Un matin, Denis apprend avec beaucoup d'émotion qu'il est convié par l'ONU à s'exprimer sur les violences sexuelles commises contre les femmes devant 200 chefs d'État. C'est une immense reconnaissance de tous ses efforts. Avec beaucoup d'espoir, il compose un discours qu'il veut à la fois factuel et interpellant. Mais alors qu'il s'apprête à prendre la parole, Denis constate avec effroi que les sièges de la tribune RDC sont résolument vides. Denis ne bénéficiera d'aucun appui de la part de son gouvernement. Pire, ce dernier l'a publiquement dénigré. Et un second incident viendra bientôt mettre à mal les derniers vestiges de la foi qu'il avait encore en son gouvernement. À 56 ans, Denis Mukwege est devenu une figure de renommée mondiale. Washington, la Maison-Blanche, le Parlement européen, Downing Street, Bruxelles, Paris. Il est partout et il raconte. Il raconte l'horreur des viols, les chiffres, les traumatismes et l'inertie de son gouvernement. Il a trouvé appui auprès de présidents, de célébrités, de personnes d'influence. On le voit aux côtés de Barack Obama, Ben Affleck, Angelina Jolie, Bill Gates ou encore Hillary Clinton. Et il vient d'être invité pour la seconde fois par les Nations Unies à s'exprimer sur les violences sexuelles dans les zones de conflit. Alors qu'il prépare son discours, un ami le contacte pour lui faire part d'une invitation de marque. Le ministre de la Santé de la RDC souhaiterait le rencontrer le lendemain au Waldorf Astoria, où réside sans doute la délégation congolaise. Denis repense alors à son intervention quelques années plus tôt devant la tribune vide de la RDC. Malgré la défiance mutuelle qui anime le président et le docteur, il a le mince espoir que peut-être cette fois, son gouvernement souhaite s'impliquer et qu'il pourra soumettre son discours au ministre, voire recueillir quelques suggestions. Dans un des salons feutrés et luxueux du palace, le médecin et l'homme politique échangent les politesses de rigueur. Le ministre est souriant et affable. « J'ai entendu que vous alliez prononcer un discours demain aux Nations Unies, » dit-il. Mais il ne se donne pas la peine d'écouter la réponse. Il plonge un regard froid dans les yeux de Mukwege et, sans équivoque, il lui déconseille de prendre la parole à la conférence. La voix du ministre est calme, implacable. Denis n'a pas le choix. On ne plaisante pas avec les messagers d'un président qui cumule déjà 27 années de mandat. Denis annule donc son discours et quitte New York, abasourdi. Mais à mesure que le nom du docteur Mukwege va se répandre dans le monde, la menace va se faire de plus en plus explicite. Denis ne baissera pas les bras pour autant. L'enjeu est plus important que lui. Et après tout, ses femmes n'ont-elles pas gagné quelques batailles ? Petit à petit, le monde s'est tourné vers la RDC et cela commence à porter ses fruits. Les Nations Unies, la Cour pénale internationale ou encore le droit humanitaire international ont commencé à faire pression sur la RDC afin qu'elle ratifie des lois et des actions contre les violences sexuelles. Le pays doit désormais offrir un meilleur accès à la justice pour les survivantes et mettre en place des programmes de protection des victimes et des témoins. Le Haut Commissariat des Nations Unies réclame également la mise en place d'un fonds pour venir en aide aux survivantes. C'est une avancée spectaculaire. Mais dans les faits, Denis va rapidement constater que les choses peinent à changer. Les instances internationales se concentrent surtout sur la mise en place de procédures, mais derrière, la mise en œuvre ne suit pas. Le système judiciaire congolais manque manifestement de volonté dans la poursuite des criminels. Le poids de la hiérarchie qui pèse sur les tribunaux est tel que presque toutes les condamnations contre les hauts gradés sont classées sans suite. Et quand des responsables sont enfin jugés coupables, les conditions carcérales et la corruption sont telles que la majorité d'entre eux parvient à s'évader. Bref, la justice peine à être rendue, sans parler de la réparation qui, elle, est inexistante. Denis, impuissant, voit les survivantes qu'il a soignées renoncer à tous leurs droits. Dans une société où le viol fait d'elles des impropres, Il leur est déjà difficile de venir porter plainte et de raconter à un homme inconnu ce qu'elles ont subi. Le coût, la complexité du processus, l'absence de protection et l'impunité qui règne au sein des instances juridiques viennent donc s'ajouter à la honte et à la peur et les dissuadent de déposer plainte. Pour Denis, c'est l'impasse. Mais un nouvel événement, un événement exceptionnel, va venir lui mettre du baume au cœur et apporter un nouvel espoir à toute la communauté. Un matin de 2018, alors que Denis Mukwege et toute son équipe sont en pleine chirurgie à l'hôpital Panzi, ils entendent des cris et des applaudissements à l'extérieur de l'hôpital. Une jeune anesthésiste est envoyée voir ce qui se passe. Quelques minutes plus tard, elle revient en courant dans le bloc. Un immense sourire sur le visage et des larmes aux yeux aussi. « Papa, papa, t'as le prix Nobel !» C'est ainsi que le 10 décembre 2018, à Oslo, devant une assemblée de dignitaires internationaux et de défenseurs des droits de l'homme, Denis tend les bras vers le célèbre mage. Il avait bien préparé quelques notes, mais au cours des 28 minutes que vont durer son discours, il ne les consultera pas une seule fois. Vos Majestés, vos Altesses Royales, vos Excellences, distingués membres du Comité Nobel, Mesdames et Messieurs, amis de la paix, c'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. C'est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde que je dédie ce prix. Mais alors que les télévisions du monde entier retransmettent en direct le discours de Denis, la seule chaîne nationale de télévision congolaise diffuse un match de basketball. Décembre 2018 à Oslo, Denis Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix. Une immense reconnaissance pour celui qui s'est battu pendant 20 ans pour que les droits des femmes de RDC soient reconnus et qu'elles obtiennent justice et réparation. Face à de puissants dignitaires, Denis a raconté le sort des femmes, des mères, des fillettes et même des bébés de RDC. N'épargnant pas à son auditoire certains détails accablants. Puis, saisissant d'humilité, il a planté son regard dans les yeux de toute l'assemblée. « Je m'appelle Denis Mukwege », a-t-il dit. « Je viens d'un des pays les plus riches de la planète. Pourtant, les habitants de mon pays sont parmi les plus pauvres du monde. » La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et autres minéraux stratégiques est la cause première de la guerre, de la violence extrême et de la pauvreté abjecte. Nous aimons les belles voitures, les bijoux et les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces articles contiennent des minéraux que l'on trouve dans notre pays, souvent exploités dans des conditions inhumaines par de jeunes enfants, victimes d'intimidation et de violences sexuelles. Des regards se sont baissés. D'autres ont soutenu ceux de l'orateur. On pouvait y lire de la surprise, de l'approbation, de la gêne aussi. Denis Mukwege se repasse le film de la soirée dans la tête depuis la magnifique chambre d'hôtel qui contraste tant avec la misère qu'il côtoie tous les jours. Il se dit qu'il a frappé fort et que sans doute cela a fait mal. Mais l'occasion était trop belle pour se taire. L'heure est à la vérité et à la justice. D'ailleurs, il a commencé à rédiger ses mémoires au travers d'un livre. Il le dédiera à toutes les survivantes de violences sexuelles. Il racontera son enfance, sa vie, sa carrière, les guerres du Congo et comment tout cela a commencé et ne s'est jamais terminé. Alors que les guerres du Congo ont officiellement pris fin il y a presque 20 ans. Denis saisit sa vieille mallette de docteur et prend place derrière le grand bureau en acajou de sa chambre. Il sort un carnet de sa mallette et se saisit d'un gros stylo noir marqué du logo de l'hôtel. La moitié du carnet est déjà remplie de notes Sur la première page, on peut y lire le titre. Un titre qui lui a toujours semblé être une évidence. La force des femmes. Denis ouvre le carnet sur une nouvelle page et écrit en swahili, à l'encre noire, « Origine des viols ». Il lève son stylo et le baisse aussitôt. La plume monte et descend prestement, libérant le flot de ses pensées. Il écrit ceci. Il faut considérer le viol comme un choix conscient et délibéré qui est la conséquence d'un mépris pour les femmes en général, car l'origine se trouve là. Denis veut raconter pourquoi le Congo est devenu la capitale mondiale du viol, car pour lutter contre un fléau, il est essentiel d'en comprendre l'origine. Il s'affaisse sur le dossier de sa chaise et réfléchit à cette question si complexe, qui amène à tant de réponses et tant d'autres questions. Pour éviter les viols, se dit-il, il faut commencer par se demander pourquoi il y a dans le monde tant d'hommes au comportement répréhensible, d'hommes si mal éduqués. Il repense à ses débuts en tant qu'obstétricien. À cette époque, il n'était pas encore un spécialiste des viols, mais déjà, il avait constaté les conditions abjectes dans lesquelles les femmes étaient traitées par les hommes, tout juste mieux que des animaux. Il racontera aussi la situation des enfants qui ne sont pas épargnés. Au Congo, la discipline est fondée sur la violence, et c'est en général le fait du père. Un cycle destructeur se met ainsi en place. Les sévices physiques donnent à croire aux jeunes enfants que la violence est une autorité nécessaire pour faire régner la discipline. Mais Denis le sait bien, le mauvais traitement des femmes et l'éducation des enfants du Congo n'expliquent pas à eux seuls la prolifération des violences sexuelles faites aux femmes depuis les guerres du Congo. Il en a été le témoin. Les premiers viols collectifs ont commencé avec l'invasion Tutsi. Et dans les années qui ont suivi, les conflits n'ont fait qu'exacerber les violences sexuelles commises sur les femmes. Le problème, c'est notre mode de vie, notre société de consommation, téléphone portable, ordinateur, voiture électrique. Tous ces appareils utilisent des batteries, des circuits ou des condensateurs qui nécessitent certaines matières premières, dont la RDC détient les plus grandes réserves connues. Indirectement, comme Denis Mukwege l'a souligné dans son discours pour le prix Nobel, notre devoir en tant que consommateur est au moins d'insister pour que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Fermer les yeux sur cette tragédie, c'est être complice. Et d'ajouter, aujourd'hui, avec l'accès à la technologie de communication la plus puissante qui soit, personne ne peut dire « je ne savais pas ». L'hymne congolais dit « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix ». On estime pourtant que 4 femmes sont encore violées toutes les 5 minutes. Dans ce pays qu'on surnomme plus que jamais la capitale du viol. Mais aujourd'hui, ces viols ne sont plus seulement une fatalité de guerre qui touche les zones de conflit. Ils ont évolué vers une banalisation du crime. Et il touche désormais l'ensemble du pays, y compris les régions les plus stables. Dans un pays marqué par les conflits et la pauvreté, ils ne sont plus seulement perpétrés par des seigneurs de guerre ou des combattants. À présent, les responsables sont aussi des civils, des amis, des parents. Et la tragédie qui continue de se dérouler au Congo reste encore largement ignorée par la communauté internationale. Je conclurai mon histoire en reprenant les derniers mots du discours du docteur Mukwege à la cérémonie du Nobel en 2018. Il dit ceci. Que pouvons-nous faire? Premièrement, c'est notre responsabilité à tous d'agir dans ce sens. Agir, c'est un choix. D'arrêter ou non la violence à l'égard des femmes. De les protéger ou non. De défendre ou non leurs droits. Finalement, c'est un choix. De construire ou non la paix dans les pays en conflit. Agir, c'est refuser l'indifférence. S'il y a une guerre à mener, c'est bien celle contre l'indifférence qui ronge nos sociétés. Voilà pour ce récit poignant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Adeline Drouin et à la collaboration des équipes de LDV Productions.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.